RMC, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Et au programme aujourd'hui du Tour de France, la 14e étape de la Grande Boucle entre Rodez et Mende. Il reste 75 km à parcourir et le temps qui est en train de se gâter, mais pour l'instant ça a l'air de tenir. On va faire un tour à la moto RMC avec Georges Quirino qui se trouve à l'avant de la course avec les échappés. Georges.
Georges.
Oui.
Ah, la moto a du mal à passer dans,
oui,
dans les gorges du Tarn.
On est dans les gorges du Tarn, c'est encaissé. On connaît les aléas des transmissions par moto. Veuillez nous en excuser, mais dans quelques instants, ça ira sans doute mieux. 75 km de l'arrivée, le peloton au passage de Saint-Enimy qui marque le début des magnifiques gorges du Tarn. Beaucoup de vacanciers, j'imagine, aujourd'hui dans ce lieu très très réputé touristiquement. Toujours 20 coureurs à l'avant avec 7 minutes d'avance. On rappelle que dans ce groupe-là, il y a les Français Ladagnus, Pinot, Roy, Perrichon, Gauthier et Romain Bardet qui est le mieux classé dans cette échappée à 17 minutes 26 de Christopher Froome ce matin.
Très bien. Georges est revenu. La moto, voilà. On nous dit effectivement sur nos écrans de contrôle qu'en raison des gorges du Tarn, c'est difficile d'avoir des images et d'avoir des transmissions avec les véhicules qui sont en course. Mais a priori, ça a l'air de passer. Georges, donc les conditions climatiques pour l'instant, pas d'eau hein, sur l'avant de la course.
Non, il y a pas d'eau, mais le ciel est toujours très chargé au-dessus de nos têtes. Ça n'a pas encore explosé sur la tête des coureurs pour l'orage, mais ça ne saurait tarder. Il fait très lourd, 35 degrés encore. Il y a plus de soleil hein, désormais sur la route du Tour. C'est nuageux et on est derrière ce groupe de tête dans les gorges du Tarn. Oui, alors ça coupe des fois parce qu'on passe sous des tunnels. Évidemment, dans ce groupe de 20 où on a vu il y a quelques instants les coureurs de l'équipe FDJ, Jérémy Roy, Mathieu Ladagnus et Thibaut Pinot accélérer, scinder ce groupe en deux. Ils étaient 7 et c'est Peter Sagan, le maillot vert, qui a dû ramener les poursuivants sur le groupe de 7, mais voilà les FDJ qui ont essayé de semer un peu la zizanie dans ce groupe de tête. C'est une étape un peu bizarre. Aujourd'hui, on est loin des schémas habituels, dans le scénario, avec cette échappée qui a eu du mal à se dessiner. Et puis derrière, ça continue à se flinguer, là, d'entre les 20 devant, dans les gorges du Tarn.
Merci, Georges. Beaucoup de propositions pour le titre de l'épisode du jour. Dimi Duff nous dit « Orage au désespoir, le peloton va prendre une mandalo ». Dimi Duff qu'on a rencontré la dernière fois. Hein,
Fred, à quand
on le salue, Dimi,
Ça fait partie des bons moments du Tour de France, rencontrer comme ça. Au hasard d'une rue un auditeur passionné et qui nous remercie pour la production d'RMC sur le Tour, c'est toujours super sympa.
Voilà, Yom qui nous dit Villermoz, le diabolo mande, voilà, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Choubouki nous dit Peter Sagan, l'art du monde de bol. C'est pas mal, monde de bol pour Peter Sagan, dont on rappelle qu'il a quand même échoué à 4 reprises pour la victoire d'étape, 4 fois deuxième. C'est déjà pas mal, 4 fois deuxième, mais bon, c'est moins bien 4 fois premier. Évidemment, Steve nous dit Sagan à l'amende, Blasigno nous dit un bon cru de Pinot, Florian nous dit Pinot, simple cycliste, Sheka nous dit Sagan encore à l'amende, ou encore Sagan, qui fait beaucoup de, qui inspire beaucoup nos tweetos, Sagan envers et contre tout, et puis voilà, je vous en donnerai d'autres tout à l'heure pour les titres. Dans un instant, on va ouvrir la musette du Tour de France, mais auparavant, on va retourner à Londres pour la suite du double du quart de finale de Coupe Davis entre la France et la Grande-Bretagne. Eric, on rappelle que les Français mènent 1-7-0. Où en est-on dans la deuxième manche?
1-7-0, effectivement. Une première manche remportée assez tranquillement, 6-4 avec un break réussi d'entrée. On est à 2 hein, dans le deuxième set pour les Britanniques. Et je regarde dans la tribune, il y a Madame Murray, bien sûr, hein, qui là vit un match particulier, voir ses deux fils défendre les couleurs britanniques.
La c'est reine toujours mère.
Un moment. Oui, si on veut, oui. Mais en tout cas, on est à 2-1 et c'est peut-être un moment important pour les Britanniques, justement, puisqu'ils sont à 30 à sur la mise en jeu de Joe Tsonga, et ça leur aurait pas arrivé souvent à Jamie et Andy de menacer les deux Français qui sont très très solides. Donc peut-être une balle de break à venir pour les Écossais. Le lob est pas mal, mais le smash de Nico Mahut qui est pas conclu. Il va, oh là là, Nico qui met dans le filet. Ça, c'est dommageable parce que sur le smash, c'est Andy, je crois, qui a eu un très bon réflexe, qui a remis la balle. Elle est revenu au milieu du cours et Nico Mahut là a commis la faute en coup droit. Il a voulu il a pas assuré sa trajectoire. Il aurait peut-être dû prendre un peu plus de marge. Et ça fait donc balle de break pour nos voisins britanniques. La première du match. On va la suivre parce qu'elle peut évidemment renverser le cours tranquille, peut-être trop tranquille de ce double depuis 55 minutes. C'est vrai qu'ils étaient bien. Joe qui interrompt son lancer de balle pour discuter avec Nico. Attention, sa manigance, ça parle beaucoup stratégie, ça ne plaît pas au public, vous pouvez peut-être l'entendre, mais c'est un point tellement important qu'il faut pas se tromper sur la zone de service. Donc Joe a dit voilà, je sers là, donc Nico sait où la balle va arriver. Après on sait pas comment le retourneur va négocier le coup, mais en tout cas la technique, la stratégie est en place. Grosse première de Joe, le retour, attention, est dedans. Oh là, Joe est surpris. Et elle est bonne, ça continue. Eh oui, elle me semblait faux. Donc les Britanniques ont interrompu le point. Mais je pense que oui, ils sont pas très optimistes, les Français, sur le challenge. J'ai l'impression qu'il y a break là. On va être fixé dans quelques secondes, Christophe, parce que la volée de Joe semblait bien longue. Il avait un peu trébuché et elle est faute. Donc break pour les Britanniques avec Andy Murray qui brandit le point. Voilà, bah t'arrives au mauvais moment, Christophe, parce que le match change complètement d'âme. 1-7-0 pour les Bleus, mais 3-1 pour les Britanniques dans le deuxième set.
Allez, faut se reprendre pour nos Français qui, on rappelle, mènent 1-7-0. On va tout de suite à Anguin pour l'arrivée du quintet. Frédéric Zarmati, salut Fred.
Oui, salut à tous. L'arrivée du quintet qui vient d'arriver à l'instant même, et la victoire pour le 11, Prince d'Ipoggio, qui s'impose à 5,90€ devant le 8, Vanacore Coletto à 7 contre 1, 3ème place pour la dernière minute RMC, le 4 et Dan Touquet à 9,5 contre 1, 4ème place pour le 13, Georgina Corner à 20 contre 1, 5ème place pour le 7, Tabisso à 16 contre 1, 11, 8, 4, 13 et 7. Je vous rappelle que le 14 était non partant. On doit s'attendre à des rapports relativement corrects, Christophe.
Merci Fred, à tout à l'heure. Tu nous diras tout ça évidemment dans le débrief tout à l'heure aux alentours de 17h50. Petit détour par Moscou maintenant pour les championnats du monde d'escrime.
RMC France Olympique.
Rodolphe Massé avec la petite finale pour l'équipe de France féminine d'épée.
Exactement, cette petite finale pour le bronze qui vient de débuter entre la France et l'Ukraine. C'est Marie-Florence Kandasamy qui est la première en piste contre l'Ukrainienne. Je vais essayer de prononcer son nom, Krivitska, on va dire ça comme ça. Et la Française pour le moment a 2 touches de retard, 3 touches à 1 pour l'Ukraine. On le rappelle, hein, par équipe ça peut aller jusqu'à 45 touches. En tout cas il y a 9 relais de 3 minutes, donc il reste beaucoup de temps. 4-1 désormais pour l'Ukraine dans cette petite finale.
Merci, merci Rodolphe, à tout à l'heure. 70 km de l'arrivée de cette étape avec le ciel qui continue de s'obscurcir et nos hommes de tête qui ont stabilisé leur avance. A priori, Fred, ça tourne autour de 7 et 8 minutes à peu près.
Oui, mais même si on peut le croire, cela ne dépend pas des hommes de tête, cette avance stabilisée. C'est vraiment le peloton qui décide comment gérer l'écart qui sépare le peloton des hommes de tête. Est-ce que 7 minutes 30 c'est raisonnable? Apparemment pour les coéquipiers de Christopher Froome, 7 minutes 30 est la limite à ne pas dépasser. On rappelle que dans le groupe de tête il y a un certain Romain Bardet qui ce matin pointait à la 15e place du général à 17 minutes 26 de Christopher Froome. On laisse donc un champ maximum de 7 minutes 30. Il reste 70 km à parcourir et on rappelle que dans ce groupe de 20 échappés, il y a les Français Ladanius, Pinot et Roy pour la FDJ, Pierre-Luc Perrichon pour Bretagne chez Cyril Gauthier chez Europcar et surtout Romain Bardet donc chez AG2R La Mondiale également présent, Peter Sagan et Greg Van Avermaet, les deux premiers de l'étape d'hier à Rodez.
Alors avant de s'intéresser au final de cette étape, on est à 70 km de l'arrivée, on vous le rappelle, on va quand même retrouver notre ami Lucho car son Tour de France n'est pas encore terminé, loin de là.
RMC, le Tour de Gaulle de la Lucho Mobile.
Notre champion qui est donc en direction de demande et qui a probablement trouvé de quoi se sustenter. Bonjour mon cher Lucho.
Salut à tous, salut mon Christophe, salut Fred, salut tout le monde.
Bon alors, où te trouves-tu Luc?
Bah écoute, je me trouve pas très très loin de l'arrivée, à vrai dire, je dois être peut-être à 4-5 km du pied de la dernière ascension. Là, l'Orange à la Berre ou ce que tu veux. Et donc là je suis donc avec
Christophe.
Christophe et
Nadine.
Alors Nadine, ce sont des petits agriculteurs ou même des grands agriculteurs de la Lozère, anciennement le Gévaudan, c'est ça? Et puis et je vais te dire une chose, je suis un petit peu sur mes terres là parce que j'avais gagné une étape du Midi Libre en 91 avec mon Cyril, qui était le directeur sportif à l'époque, à Margevol, mon manager. Hein, Cyril, tu t'en rappelles, je pense, hein? Margevol en 91. Je sais pas s'il est là, Cyril.
Si, je suis là, mais je viens juste de remettre mon casque. Alors, j'ai pas du
voilà,
tout
voilà,
ce que tu as dit.
Non, je disais que j'étais sur mes terres ici un petit peu, puisque j'avais gagné une étape du Midi Libre en 91 à Margevol.
Je me souviens, t'étais dans la voiture derrière moi et puis tu m'encourageais là dans la
j'ai toujours été là pour t'encourager, mon petit Lucho.
Eh oui, voilà, donc c'est un petit peu l'anciennement du Gévaudan, et puis à l'époque on m'appelait le loup du Gévaudan, tu vois, comme je me rappelle bien encore. Voilà.
Ah, t'es toujours resté un loup, hein.
Maintenant c'est le loup des boîtes de nuit, chacun son.
Voilà, non, arrête, c'est pas vrai, je suis en pleine condition, et puis surtout quand je vois ce très beau fromage devant mes yeux et tout, là, c'est. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous faites exactement alors?
Ah ben non, on est producteur fermier, on fait du fromage à la ferme, c'est moi qui le fais. Et on fait ça pour gagner notre vie, puisqu'aujourd'hui, on s'aperçoit que l'agriculture est difficile à vivre autrement. Donc on essaye de vivre de nos produits en les vendant directement.
D'accord, donc c'est vraiment des produits du cru, donc vous le faites à base de quoi?
À base de lait de vache, nous.
D'accord, et alors vous avez combien de vaches? Parce que vous avez des terres, vous avez votre ferme, vous avez combien d'hectares?
On a 70 hectares et on a 40 vaches laitières.
D'accord, et donc la traite, elle se passe comment? C'est le soir, tous les soirs, ou c'est plutôt le soir et le matin de bonne heure?
Ah ben c'est le matin à 4h30 et le soir à 5h.
Voilà, je m'y connais un petit peu parce que j'ai des amis fermiers dans le Limousin qui ont des vaches laitières aussi, qui fabriquent le lait. Donc vous le faites à base de lait, et pour avoir un fromage vraiment pour le manger, il faut attendre combien de temps après la fabrication?
Ah, il faut compter un mois et demi au minimum.
Un mois et demi, d'accord. Et donc vous le faites fermenter, c'est ça, chez vous?
Mais en fait, on le fait affiner en cave, et puis jusqu'à ce qu'il soit à extra consommé, quoi.
D'accord. Et vous, Nadine, alors, vous faites la même chose que votre mari, alors?
Non, je ne fais pas du tout la même chose que mon mari. En fait, je fais juste la commercialisation des fromages sur les marchés.
D'accord. Donc vous vendez le fromage que fait votre mari?
Tout à fait.
Alors, mis à part le fromage que vous faites, il y a quand même des produits dans le coin, là, que l'on mange, des petites spécialités régionales?
Dans le coin, il y a des fromages de chèvre, il y a de la charcuterie, il y a des gens qui font de la viande en caissette pour vendre directement aux consommateurs. On a un peu de tout.
Mais alors, le produit phare du coin, là, qu'on mange bien, c'est quoi? Parce que moi, comme je loge à Mende ce soir, je voudrais manger un produit du coin. Alors, c'est quoi votre produit du coin, là, que c'est de la viande, c'est quoi? Le plat cuisiné. Nadine, c'est quoi le plat cuisiné ici dans le coin?
Le plat cuisiné, c'est l'aligot, et un dessert, c'est la coupetade.
La coupetade, et c'est quoi la coupetade?
C'est à base de pain perdu avec du lait et des œufs.
Donc d'accord, très bien. Alors je vais essayer de goûter ça avec mon Pierrot, puisqu'on est séparés. Tu sais, Christophe, ce soir on n'est pas dans le même hôtel, donc je vais essayer de goûter l'aligot avec une bonne viande du coin et puis la coupetade. Voilà.
T'es d'accord,
en tout cas, c'est super sympa parce qu'ils sont descendus de leur ferme exprès. Et puis toi, je vais te goûter un petit fromage.
Ouais.
Ah bah c'est super gentil, vous allez nous les donner pour le camion. Attends, je vais vous ramener deux gros fromages.
Ah bah on est d'accord, hein, on est entièrement d'accord.
Et Lucho, c'est encore moi qui vais payer ton repas ce soir.
Voilà, en tout cas,
il perd sa carte bleue tous les soirs.
Bah oui, c'est bizarre.
En tout cas, c'est du bio, c'est du cru, et il faut rendre service aux paysans et aux agriculteurs.
Exactement.
Qui font du bio et qui font vivre notre terroir, et ça c'est vachement important. Voilà.
Très bien, merci Lucho, la Lucho mobile.
De rien,
qui s'emplit chaque
mon fromage.
Jour. Elle penche un peu vers l'arrière,
bon,
la Lucho mobile.
Bon, hein.
À force de ramener des fromages, des charcuteries, un peu tout.
Il n'y a plus personne qui veut rentrer dedans.
Il n'y a plus personne. Non, mais bon.
On entend qu'elle ne crève pas de l'arrière.
Oui, non, c'est le plus important. Merci en tous les cas, Lucho, pour la Lucho mobile.
À tout à l'heure,
Lucho. Fred, un petit point tout de suite avant de s'interrompre quelques instants, parce qu'il m'a donné faim. Là, je vais aller manger un petit morceau de fromage. Fred, le top course.
RMC, top course.
À 66 km de l'arrivée, très exactement, à la sortie des Gorges du Tarn en ce moment, les 20 hommes de tête comptent une avance de 7 minutes sur le peloton emmené par les Sky. On rappelle que le final de cette 14e étape est très spectaculaire, avec 3 difficultés dans les 40 derniers kilomètres. La composition du groupe de tête, 20 coureurs, dont les Français Ladanius, Pinot et Roy pour la FDJ. Également présent Perrichon pour Bretagne Séchée. Cyril Gauthier qui remet ça aujourd'hui, le lutin de l'équipe Europcar. Et puis Romain Bardet, 15e du général ce matin, à 17 minutes 26 de Christopher Froome. Et dans le coup également, il ne donne pas un coup de pédale à l'avant de ce groupe. Également présent dans ce groupe de 20, Van Avermaet, le vainqueur de l'étape d'hier à Rodez. Et Peter Sagan, le maillot vert, son dauphin d'hier.
Le tennis au Queens, le double de quart de finale de Coupe Davis France-Grande-Bretagne. Eric Salio.
65 minutes de jeu ici sur le central du Queens. 5-7-0 pour les Bleus, 6-4 pour Nico Mahut et Joe Tsonga, mais 4-2 dans le deuxième set pour les frères Murray. 30 à sur la mise en jeu d'Andy Murray. 40-30, balle de 5-2 pour les Britanniques qui ont inscrit tout à l'heure 8 points d'affilée qui ont fait grand mal aux Bleus.
Merci Eric, attention, il faut se ressaisir messieurs les Français, on va pas leur laisser le point, un point capital, on vous le rappelle avant les deux derniers simples de demain. Et puis l'escrime, la petite finale pour nos épéistes féminines de l'équipe de France. Rodolphe, où en est-on dans cette petite finale pour la médaille de bronze?
Eh bien les Françaises, elles aussi, doivent se ressaisir parce que pour le moment, les deux premiers relais ont été à sens unique en faveur de l'Ukraine qui mène 8 touches à 2. Après donc deux premiers relais, c'est Lauren Rembi qui est actuellement en piste pour l'équipe de France, elle qui n'avait pas tiré de la journée. Et pour le moment, elle n'arrive pas à trouver la faille. Et chez son adversaire, 9 touches à 2 à présent pour l'Ukraine.
Merci Rodolphe. Il est 15h21 sur RMC. On revient évidemment sur la route du tour dans quelques instants. Et puis on va accueillir aussi Patrick Tambay pour évoquer Jules Bianchi, dont on vous rappelle qu'on a appris le décès dans la nuit à Nice. Jules Bianchi, 25 ans, à la suite de son accident au Japon. C'était il y a 9 mois. Il a donc perdu ce combat, le dernier combat de sa vie. A tout de suite sur RMC. L'Intégral Tour revient dans une petite minute.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour, Christophe Sessieux.
La 14e étape du Tour de France aujourd'hui en direction de Mende à travers le beau département de la Lozère. Le peloton qui suit pour l'instant le Tarn qui est sur la droite de ce peloton dans des petits villages. C'est magnifique cette région et tout à l'heure ce sera magnifique l'arrivée sur les hauteurs de Mende, sur l'aérodrome, là où Laurent Jalabert avait remporté une étape mythique. C'était un 14 juillet en 1995, il y a tout juste 20 ans. Avant de s'intéresser à nouveau à la course et de repartir également à Londres pour le tennis, nous sommes en ligne avec Patrick Tambay. Vous le savez, ce matin on a appris la triste nouvelle au réveil, le décès de Jules Bianchi, une nouvelle que l'on redoutait depuis 9 mois et son accident lors du Grand Prix du Japon. Patrick est avec nous, bonjour Patrick.
Bonjour Christophe.
Patrick, je sais combien tu aimais, hein, parce que c'était pas de l'admiration, c'était de l'amour que tu avais, presque de l'amour filial que tu avais pour Jules Bianchi, qui est t'es l'un des meilleurs amis d'Adrien, ton fils, que tu as connu tout petit, hein, puisqu'il est de la même région que toi. Il était niçois, toi t'es à Cannes. Donc j'imagine combien est grande ta peine aujourd'hui. C'est même pas la peine de le dire, tellement c'est évident. Ce jeune garçon que tu as connu quand il était tout jeune pilote.
Oui, on est très très nombreux certainement aujourd'hui à être peinés, mais c'est une nouvelle que l'on attendait depuis longtemps, on l'espérait même peut-être quelque part pour que enfin il puisse rester reposé en paix, parce que c'était une longue souffrance depuis maintenant, et pour sa famille et pour ses proches et tous ses amis, et pour lui-même bien sûr depuis maintenant cet accident de Suzuka. Te dire que c'était comme un fils, oui, un petit peu quelque part, puisque ils ont grandi ensemble, ils ont pratiqué la même passion à Grimaud, à Brignoles, sur le circuit du papa, quand ils étaient tout petits, vers 4, 5, 6, 10 ans, ils ont fait les 24 heures de Brignoles, les marathons de courses en kart. Et puis de là, ils sont partis vers l'Italie pour courir plus professionnellement en Italie, et au point que même Jules s'est carrément expatrié et resté là-bas pour travailler encore plus dans le sein même de son équipe, au sein même de son équipe. Bref, enfin, c'était vrai, un grand tristesse, un grand moment de soulagement aussi pour tous ses proches et son, ouais, papa. C'est terrible.
La passion de la course automobile se transmet souvent de père en fils. Tu en es l'exemple parfait. Jules était aussi cet exemple-là. Une grande famille de course automobile, hein, même si son père n'était pas coureur automobile, mais dans la famille, je crois que son grand-père, son oncle, tout le monde tâtait du volant, et tous avec beaucoup de talent.
Oui, c'est parti de l'arrière-grand-père, puis du grand-père, effectivement, et puis le papa qui était professionnellement impliqué dans ces circuits de cartes. Comment est-ce que Jules ne pouvait pas tomber dedans? C'était impossible. Donc il est tombé dedans quand il était tout, tout, tout petit, et la passion, elle s'est forgée au fur et à mesure. Là, son jeune frère Tom était là qui le suivait. N'a pas, heureusement pour lui, n'est pas tombé dans cette même passion, même si il était très très proche de son frère, de son grand frère Jules. Il a pris des voies un peu plus normales, on va dire, entre guillemets, mais pour Jules, c'était la normalité que de courir.
Patrick, un petit mot, tu as été pilote de Formule 1, tu as remporté les Grands Prix, pilote émérite chez Ferrari, ton fils a pris le même chemin que toi. Est-ce qu'on est inquiet pour son enfant lorsqu'on a connu la course automobile? Est-ce que toi tu as essayé d'empêcher ton fils finalement de faire ce métier? Est-ce que l'inquiétude te gagne lorsqu'Adrien est en compétition, ou c'est un truc qu'il faut complètement oublier et la passion est plus forte que tout?
Quelque chose de très très personnel, très profond. C'est beaucoup plus dur pour moi de regarder une course aujourd'hui quand il est en course que quand j'y étais moi à gérer. C'est très 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 difficile, mais c'est pas tellement la peur de l'accident. C'est pour nos enfants, bien sûr, c'est quelque chose d'important, on y pense, mais on le met de côté, on se dit c'est pas possible que ça puisse nous arriver. Enfin, on a fait tellement de progrès, mais bon, il y a tellement de dangers autour de la course automobile, des sports motorisés d'une manière générale, qu'il faut faire très attention à tout ça, bien attention à tout ça, bien se préparer pour essayer de mettre de côté le maximum de dangers, les écarter, en tout cas l'écarter. Mais on pense plutôt à la manque de réussite que ça représente pour son jeune pouce, parce que c'est ce à quoi eux ils aspirent, ils veulent réussir. Et quand ça ne fonctionne pas, c'est toujours un peu plus dur, bien sûr.
Ouais. C'est vrai, Patrick, de toute façon, toi, tu fais partie d'une génération qui a vu disparaître la moitié de tes copains en compétition. Hein. Les années 70, 80, c'était terrible. Il n'y avait pas du tout la même sécurité qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le premier accident mortel, faut le rappeler, depuis 1994, depuis Senna. Hein. C'est dire si la sécurité a fait des progrès, mais ça reste malgré tout une discipline très dangereuse. Et Jules, malheureusement, est mort dans l'exercice de ses fonctions qu'il exerçait à merveille. Merci Patrick d'avoir été avec nous. Je sais que tu es très ému.
Oui, je m'excuse si ça peut paraître un petit peu comme ça, bien sûr. Trop ému, mais bon, c'est normal.
On te comprend, évidemment. Merci Patrick, on t'embrasse.
Ok.
Et à bientôt la semaine prochaine, évidemment, pour le prochain Grand Prix qu'on suivra sur RMC avec Jean-Luc, avec Patrick et avec lui, Amar. Tout le monde est évidemment très triste aujourd'hui. On dédie cette émission à Jules Bianchi, ce jeune pilote niçois surdoué qui est donc décédé la nuit dernière à l'hôpital de Nice. 15h31, on va reprendre la route de la course, cette 14e étape du Tour de France entre Rodez et Mende. Avant de faire un point sur la course, on retourne tout d'abord à Londres avec Eric Salio, car malheureusement, Eric, les Britanniques ont égalisé un set partout face à la paire française.
Ah oui, ce break au milieu de cette deuxième manche a été fatal au bleu. Donc Jamie Murray et Andy Murray ont recollé au score, une manche partout, 6-4 pour Joe Wilfried Tsonga et Nico Mahut, et 6-3 à l'instant pour les Britanniques. C'est Nico Mahut qui va débuter au service cette troisième manche. Là, il faut faire la course en tête, il ne faut pas se poser de questions. Ok, on oublie ce qui s'est passé, on a un petit moment d'égarement. Il faut partir à la guerre.
À la guerre face aux Britanniques. Merci Eric, à tout à l'heure. 15h32, retour donc sur la route du Tour de France. Nous sommes à 57 km 300 de l'arrivée. Un point complet, c'est le Top Course avec Fred.
RMC Top Course.
Avec un groupe de tête qui longe les gorges du Tarn, qui longe le Tarn, avec les vautours qui survolent ce lieu hautement touristique. Spectacle garanti aujourd'hui sur la route de Mende, mais aussi à l'arrivée avec cette fameuse dernière ascension, la côte de la Croix-Neuve qui monte pendant 3 km à 10% de déclivité moyenne, mais avec des passages avoisinant les 17-18%. Ce sera un final pour puncher, c'est sûr. Grand spectacle en perspective. 20 coureurs à l'avant à 57 km de l'arrivée. 20 coureurs dont les Français Ladanius, Roy et Pinot pour la FDJ. Également présent Pierre-Luc Périchon pour Bretagne Séchée Environnement, Cyril Gauthier pour Europcar. Ces deux derniers étaient déjà présents dans la longue échappée en direction de Rodez hier. Et puis également à l'avant aujourd'hui, et c'est très bien de le voir une fois de plus à l'attaque comme avant-hier vers le plateau de Baye, Romain Bardet, l'un des deux leaders leader de la formation AG2R qui pointait ce matin à la 15e place du classement général à 17 minutes 26 de Christopher Froome. Il fait partie, Romain Bardet, des 20 hommes de tête. Il y a là également le Colombien Rigoberto Urán, Greg Van Avermaet, le vainqueur de l'étape d'hier, le Belge de BMC, Peter Sagan, le maillot vert, est également là et il a fait la rafle des points pour le classement par points tout à l'heure au sprint de Millau. 56 km à parcourir. Les 20 hommes de tête comptent 6 minutes d'avance sur un peloton emmené par les Sky qui contrôlent la distance.
Et on vous rappelle que le début d'étape a été marqué par une chute collective avec notamment l'abandon de l'un des équipiers Thibaut Pinot, Steve Morabito, qui, on l'apprend à l'instant, est victime d'une fracture de la clavicule. Il va être transféré demain à Genève où il sera vraisemblablement opéré. Jérémy Roy avait également été pris dans cette chute mais il a pu reprendre la course. Et Thibaut Pinot également, hein,
oui,
qui
oui,
a
les deux,
le haut du maillot abîmé.
Les deux coureurs de la FDJ sont à l'avant. C'est Jérémy Roy qui a le cuissard et le maillot déchiré. Pas aussi gravement que Jean-Christophe Perrault hier, qui avait terminé vraiment telle une momie, qui a repris la route ce matin. Le co-leader de l'équipe AG2R, deuxième du dernier Tour de France, Jean-Christophe Perrault, en souffrance aujourd'hui sur les routes en direction de Mende, mais qui tient bon malgré vraiment un attirail, un harnachement assez impressionnant.
On l'écoutera tout à l'heure puisque nos reporters l'ont rencontré ce matin avant d'attaquer cette étape. La moto RMC est en compagnie des 20 hommes de tête. Georges Quirino, il fait un peu moins chaud qu'hier quand même aujourd'hui sur les routes du Tour de France, hein.
Ouais, il fait un peu moins chaud mais il fait chaud quand même, hein. 33 degrés toujours au thermomètre, même si on n'est pas sur des routes ensoleillées aujourd'hui, mais on est plutôt sous la grisaille. Il fait toujours aussi lourd ici là dans les gorges du Tarn, le Tarn qui coule à notre droite. On est derrière la longue file de voitures de directeurs sportifs. On a l'impression d'être derrière un petit peloton, hein, là, tellement il y a d'équipes représentées. Et quand on regarde dans les voitures, il y a beaucoup de patrons qui ont pris place aujourd'hui, ou les fils des patrons. Dans la voiture Astana, on voit les deux garçons d'Alexandre Vinokourov qui se sont positionnés à côté de Dimitri Fofonov, le directeur sportif, et qui prennent des photos. C'est les portraits crachés de leur père, d'Alexandre Vinokourov. Et puis plus intéressant peut-être, on essaiera d'aller le voir tout à l'heure, a pris place aujourd'hui dans la voiture Tinkoff Saxo, le patron à l'arrière, Oleg Tinkoff, le mania russe qui est revenu sur les routes du Tour aujourd'hui après être passé chez lui en Italie. Oleg Tinkoff derrière Peter Sagan, peut-être pour lui mettre un petit peu la pression. Lui qui a annoncé, je vous rappelle, que son équipe allait gagner le maillot jaune avec Contador, le maillot vert avec Sagan et le maillot à poids avec Raphaël Maïka. Il veut faire la rafale de tous les maillots. On va voir ce qu'il en est. On essaiera d'aller le voir, le fantasque mania russe tout à l'heure.
Et oui, le mania russe.
Il a les yeux plus gros que le ventre quand même.
Tinkoff,
hein,
qui a amené ses enfants sur la course. Vinokourov qui a amené ses enfants sur la course. Christophe Cessieux qui a emmené le petit Charles ici au studio RMC également. C'est samedi.
Ah ouais. Mais une grosse mission, aller ramasser le plus de bonbons pour son petit frère et sa petite soeur. Ah,
c'est comme son papa. Gros...
Merci Fred. J'en ai quand même glané quelques petits paquets de bonbons. Les paris. Bah oui, c'est l'heure des paris, messieurs dames.
Les paris RMC, Tour de France.
Et on accueille Benji. Salut Benji.
Salut messieurs.
Je vais te ramener un paquet de bonbons, promis.
C'est gentil, Christophe. Ouais,
parce que le petit Cessieux, il est très très efficace comme son père pour ramasser les bonbons. Alors Benji, on rappelle les principaux favoris de cette étape du Tour.
Les favoris, ça a un petit peu changé puisque à l'heure où on se parle, eh bien c'est Thibaut Pinot qui est devenu le favori de l'étape à 3,80. Derrière, on retrouve Rigoberto Urán à 6,75 et Romain Bardet à 7,50. Donc cocorico au niveau des cotes. En revanche, aucun des trois favoris n'a été donné hier par la Dream Team. Lucho avait donné Valverde Rodriguez, Bourgui Rodriguez Villarmoz, Cyril Froome Martin, et toi Christophe, tu avais donné Froome. Est-ce qu'on change ou est-ce qu'on reste sur nos pronos d'hier? C'est la question.
6 minutes d'avance, Cyril, est-ce qu'on change ou est-ce qu'on change pas? Qu'est-ce que tu en penses?
C'est difficile parce que l'écart diminue régulièrement. Il était de 8,40 tout à l'heure, il n'est plus que de 6,08 malgré une belle réaction des coureurs de la FDJ tout à l'heure pour essayer de casser ce groupe pour qu'il aille plus vite. 20, c'est beaucoup trop pour qu'il y ait une véritable entente, d'autant qu'il y a quelques coureurs qui n'ont pas intérêt à rouler puisque on est tout simplement en train de, et si l'écart avait continué de grossir, tout simplement en train de ramener presque dans le top 10 Bardet. Donc il y a des coureurs qui n'ont n'ont pas, qui ont pour consigne de ne pas rouler, puisqu'ils ont des leaders qui sont soit en approche du top 10, soit dans le top 10. Donc, ça roule pas trop, et puis le peloton revient régulièrement. Alors, est-ce qu'il va revenir avant le pied de l'ascension ou pas? C'est ça le grand point d'interrogation, et c'est ça tout l'intérêt de choisir une option. Ouais. Alors, c'est vrai, on a...
Alors, quelle option tu choisis, toi?
Ah ben, écoute, je mettrai une pièce sur tout le monde, moi, comme je suis parti là. Hein. Je suis pas sûr que ça rentre quand même. Donc,
Et oui, parce qu'il faut bien noter, on le rappelle, qu'il y a la côte de sauveterre qui se profile dans une dizaine de kilomètres seulement. L'écart est encore de 6 minutes. Sauveterre, c'est une bosse de 9 kilomètres à 6% de déclivité, classée en deuxième catégorie. Derrière, on bascule vers Balsièges et Barjac pour la côte de Chabris à 9 kilomètres de l'arrivée, 2 kilomètres d'ascension encore. Puis on descend vers Mende et la côte de la Croix-Neuve. Ça va être un enchaînement de difficultés, le final de cette étape.
Très bien, Fred, ton favori donc pour cette étape?
J'avais donné hier soir dans la voiture Romain Bardet.
Très bien. Cyril, tu avais donné qui déjà? Je me rappelle plus.
Oh là, moi je suis pas dans le coup du tout, d'autant que l'un des deux que j'avais choisi hier soir était lâché dans la première partie de l'étape, Dan Martin. Alors est-ce qu'il a été pris dans la chute où il se trouvait entre autres Morabito, hein, qui a quitté le Tour, vous l'avez signalé, mais également Pinot, Roy et d'autres coureurs, parce qu'on a vu quelques maillots quand même qui avaient un petit peu souffert. Donc est-ce qu'il était dans cette chute là ou pas? Donc moi je le retirerai et puis je reviendrai maintenant sur les hommes de tête. Je pense qu'il en restera à l'arrivée parce que ça va bouger dans la côte de Sauveterre là, pour éliminer justement quelques inutiles dans le groupe de tête et faire en sorte qu'il y ait un petit groupe de 5 ou 6 qui s'en va pour aller se disputer la victoire dans la dernière ascension. Alors je mettrais bien Thibaut Pinot, je mettrais bien une pièce dessus.
Bah moi aussi je mettrais.
Mais il va gagner Thibaut Pinot, Christophe, tu l'as retiré hier au dernier moment.
Non, je voulais pas lui porter la Schkumoun.
Et ben il va gagner, voilà.
Voilà, très bien. Bah,
pour l'instant, il n'a été pris que dans une chute. Hein,
une chute tout à l'heure en début.
Bon, je plaisante parce que maintenant, il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein, il faut mettre une petite bulle derrière. Hein, rire ou pas rire. Hein.
Ok, merci Cyril. 15h41, merci également à Benji. On te retrouve tout à l'heure pour le débriefing des paris.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
51 km encore à parcourir. On va faire un point complet dans quelques instants. Restez avec nous sur la route du Tour. Et puis à Londres, les Français mènent 2-1 dans la troisième manche. On rappelle qu'ils sont à égalité. Une manche partout. À tout de suite. Voilà, le point complet, c'est évidemment maintenant avec Fred qui adore avoir ces deux petites minutes pour tout nous dire ce qui se passe sur la route du Tour de France à 50 km de l'arrivée.
Et il y en a à dire, 51 km de l'arrivée, effectivement, la course toujours dans les gorges du Tarn avec une avance de 6 minutes 20 pour 20 hommes qui ont réussi à s'extraire du peloton après une cinquantaine de kilomètres après le départ de l'étape à Rodez. Dans ce groupe de 20, on rappelle la présence des Français Ladanius, Roy et Pinot pour la FDJ. Présent également Pierre-Luc Perrichon, le coureur bressant de l'équipe Bretagne Séchée, présent hier dans l'échappée en direction de Rodez. Également là Cyril Gauthier qui lui aussi a été l'un des grands animateurs hier en direction de Rodez, là où Greg Van Avermaet s'est imposé. Van Avermaet qui est également dans ce groupe de tête aujourd'hui. Van Avermaet avait devancé sur la ligne au terme d'un sprint haletant hier Peter Sagan, le maillot vert. Sagan également dans le coup aujourd'hui, qui a fait la rafle des points pour le classement du maillot vert au sprint de Millau sous le magnifique viaduc du même nom. Également présent dans ce groupe de 20, le Colombien Rigoberto Urán, l'Ukrainien Grifko, l'Espagnol Plaza Molina, le champion du Luxembourg Bob Jungels, un autre Colombien Pantano chez Lampre, Coren chez Cannondale, De Kort le Hollandais, Simon Yates le Britannique. Et on a fait le tour, on a bel et bien là 20 coureurs qui comptent au dernier pointage 6 minutes 20 donc sur un peloton où les Sky sont positionnés depuis le début de l'étape, les Sky qui maintiennent à une distance raisonnable les hommes de tête. Ils ne veulent pas laisser trop de champ, mais ça devrait aller au bout pour ces hommes là avec la côte de Sauveterre en deuxième catégorie, la côte de Chabris et la montée finale de la côte de Croix-Neuve sur les hauteurs de Mende.
Vont-ils conserver quelques mètres sur l'alignement tout à l'heure? C'est tout l'intérêt de cette fin de course.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
15h44 sur RMC. On s'approche tout doucement de l'arrivée. Encore un peu moins de 50 km à parcourir. Quelle est belle la France avec aujourd'hui pour les coureurs les gorges du Tarn. Magnifique avant d'arriver à Mende tout à l'heure dans la Lozère et d'escalader la montée l'Orange à la Berre, arrivée sur l'aérodrome de Mende. En attendant, c'est l'heure du jeu Tour de France RMC. Aujourd'hui, vous pouvez gagner le jeu de société L'échappée infernale, le livre Parlons vélo de Marc Madiot aux éditions Talents Sport et surtout deux places VIP pour assister dans les meilleures conditions à l'arrivée du Tour sur les Champs-Élysées pour tenter de gagner ce pack cadeau. Appelez le 32-16 touché ou envoyez le mot-clé RMC par SMS au 7-32-16. Bonne chance. 48 km 100 de l'arrivée. On va retrouver la moto RMC, Georges Quirino, qui est à l'avant de la course avec nos échappés. Ça continue de bien s'entendre, Georges, dans ce groupe de 20. Cyril disait tout à l'heure, ils sont peut-être un peu trop nombreux pour que ça aille au bout. Pour l'instant, il n'y a pas de tentative d'échapper.
Non.
On passe sous un tunnel. Oui. Christophe, est-ce que vous m'entendez?
Oui, ça y est.
Oui, derrière le groupe de 20, on est toujours dans les gorges du Tarn. Hein, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. On a les vautours parfois au-dessus de nos têtes. Toujours le Tarn à notre droite. On est sur des routes très très étroites. Où je peux t'assurer que dans la longue file du directeur sportif derrière, c'est un peu dur de se faire du chemin. On passe sous un tunnel. Christophe, je te rends la main.
Très bien, voilà. Il a compris. C'est vrai que sous les tunnels, malheureusement, la liaison
il aime les tunnels parce que comme ça les aigles ne peuvent pas lui tomber dessus. Et pourtant il risque rien, c'est plutôt sur le pilote que les aigles iraient sur Georges, il n'y a rien à manger.
Ils vont pas s'attaquer à Marco les vautours, tu rigoles ou quoi? Non mais ils auraient de quoi faire quand même.
Sur Georges, il n'y a rien à manger.
Il n'y a rien à bouffer sur ce mec là.
Les magnifiques vautours des gorges du Tarn. Il te le fait quand même assez régulièrement le coup de je passe sous un tunnel. Hein. Il se dispense de rapport au chef. Je passe sous un tunnel, on l'entend assez souvent quand même, depuis le départ.
Non, mais en dehors de ça, il fait rarement des tunnels.
Non, à la différence d'autres, par contre. Très bien, messieurs, c'est l'heure de la musette.
RMC Intégral Tour, la musette.
Alors, qui va commencer la musette? Peut-être notre barde breton, Pierre-Yves Leroux, qui nous a ramené quelques petites informations de son passage au village départ ce matin.
Oui, c'est rare que les Bretons parlent d'eau, mais on va parler d'eau avec l'étape d'hier qui évidemment a marqué les organismes vu la chaleur. On le disait à la fin de l'étape hier, les coureurs qui se sont dès la ligne franchie précipités vers les bouteilles d'eau pour s'arroser. On a vu des photos aussi sur les réseaux sociaux de coureurs qui en arrivant à l'hôtel sont allés sous les jets d'eau pour nettoyer les vélos et qui ont pris leur douche comme ça dehors et pour vraiment rafraîchir le corps. On a fait le point ce matin avec Gérard Guillaume, le médecin de l'équipe FDJ, pour savoir un petit peu ce que ça avait donné, certains chiffres importants par rapport à ces consommations d'eau et de liquide, surtout parce qu'il ne faut pas boire que de l'eau. Gérard Guillaume, le médecin de la FDJ.
En gros, ils prennent 20 bidons sur une étape comme hier, 20 bidons, je vous rappelle qu'un bidon c'est 500 millilitres. Bon, je sais bien qu'ils ne boivent pas tout, pour certains ils s'arrosent, mais ça fait quand même beaucoup. Nous dans notre équipe, on a la chance de bénéficier de la cryothérapie, corps entier, donc une journée comme hier, ils en ont fait 3 séances, une le matin au lever, une à l'arrivée de l'étape et une avant de se coucher. Et par rapport, si on compare par rapport à l'encadrement, tout le monde a très mal dormi, les coureurs ont très bien dormi. Donc ça montre quand même qu'il y a une efficacité à ce niveau-là intéressante et ils en tirent bénéfice. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont fatigués, tout le monde est fatigué à ce degré du Tour de France, tout le monde est fatigué.
Et on était en compagnie des coureurs de la FDJ ce matin à l'hôtel avec Mathieu Ladanius qui à l'heure du petit déjeuner partait faire une séance de cryothérapie et peut-être que ça lui a donné des jambes aujourd'hui tout comme Thibaut Pinot.
Ah ouais, un coup de froid avant de partir, se mettre dans la chaleur du tour.
Moins 180 degrés tout simplement parce qu'il faisait 40 et que c'est à peu près à moins 140 la cryothérapie.
Très bien, au petit matin comme ça.
Au petit déjeuner, ça rafraîchit les idées.
Ça réveille, hein, ça. Fred, non.
Ah oui, non, je m'y vois pas du tout.
Je m'y vois pas du tout dans les
couperais, moi.
Mais quand je pense qu'on dit toujours qu'il faut se couvrir pour pas attraper un coup de froid.
Ouais. Cyril, on a parlé rapidement hier, mais toi, tu as essayé la cryothérapie justement.
Tu étais un des principaux témoins.
Oui, je regardais. Moi, j'ai pas voulu rentrer dans la glacière. Avant, dans d'autres Tours de France, t'étais le roi de la glacière, mais différemment. Ça fait quoi comme impression, Cyril?
Ah, c'est assez bizarre comme impression parce que, alors d'abord, il y a la sensation de froid, Mais il y a des sensations qu'on ne peut sans doute retrouver qu'à ce niveau-là, à moins d'aller au pôle Nord ou au pôle Sud. Mais à certains moments, on a le sentiment un petit peu de... Alors, c'est pas de s'envoler, mais de ne plus être tout à fait nous-mêmes, quoi. Mais sans véritablement avoir froid. Alors, il doit y avoir une réaction organique que je ne connais pas, mais on n'a pas véritablement la sensation d'un très grand froid. Alors, quels en sont les bénéfices? Je n'ai pas travaillé sur le sujet, mais je pense que ça doit être bénéfique, puisque vous avez 3 FDJ dans l'échappée aujourd'hui.
Et surtout, il n'y avait pas de clim, par exemple, dans les chambres des coureurs hier, et le fait d'aller effectivement à la cryothérapie, ça permet de descendre le corps d'un demi, voire un degré, et ça facilite l'endormissement. Donc déjà, avant que le corps se réchauffe, c'est quand même vraiment un bon outil pour les coureurs.
Très bien, merci monsieur Leroux. Aujourd'hui, bon, il fait chaud, mais il fait quand même pas les mêmes températures qu'hier. Hier, on a atteint quasiment les 40 degrés, 39
quasiment
degrés,
les records, hein, 65 degrés au niveau de la route.
Mais la météo est plutôt de retour à la canicule, oui, à partir de demain ou après-demain.
On va être à 30 degrés demain, après-demain, donc les organismes vont souffrir de nouveau.
Et les Alpes arrivent, on vous le rappelle. Merci donc pour la musette de Pierre. Et on va remettre un petit coup d'accordéon, évidemment, on adore la musette. Qui a des choses à nous dire dans sa musette? Peut-être Georges sur la moto RMC. Georges, à moins qu'un tunnel t'empêche de nous raconter ce que tu as dans ta petite musette.
Dans ma musette, non, pour l'instant il n'y a pas de tunnel à l'horizon, on va essayer de faire court peut-être. Est-ce que vous savez qui était au départ ce matin? Vous savez, on a eu Lance Armstrong il n'y a pas longtemps sur les routes du Tour de France. Ce matin, on avait quelqu'un d'autre de très sulfureux qui était là. Vous en avez entendu parler? Je vous dis Chicken, à quoi vous pensez?
Rasmussen.
Oui, Rasmussen qui envisage de reprendre une équipe, je crois, hein, d'après ce que j'ai lu, non, Georges?
Exactement, et il était là, Michael Rasmussen, le Danois, qui a été invité en fait par un journal à suivre le Tour, un journal danois, pour suivre le Tour de France jusqu'à l'Alpe d'Huez. Il était devant le bus Sky, il était interviewé par plusieurs journalistes. Il a choisi le bon bus, hein, pour parler, notre ami Michael Rasmussen. Il y avait un gros attroupement devant le bus de l'équipe britannique, comme ça, quelques déclarations. Il nous a juste dit que visiblement il y avait moins de dopage qu'à son époque. On espère qu'il faut le croire. En tous les cas, le Danois était la grosse attraction ce matin au départ, et il sera là jusqu'à l'Alpe d'Huez, donc ce sera un invité un peu encombrant, on l'imagine, pour les organisateurs du Tour au village départ.
Et ça provoque moins de réactions que la présence de Lance Armstrong, hein. Il n'y a que Lance Armstrong qui est vraiment interdit de séjour sur les routes du Tour.
Michael Rasmussen qui avait été viré du Tour de France en 2007, maillot jaune sur le dos, au soir de la victoire de Contador au col de l'Aubisque devant Rasmussen au terme d'une nouvelle séance de sprint en montagne qui était totalement délirante et que nous avions dénoncé à l'époque à l'antenne d'RMC en plein direct, ce qui nous avait valu quelques remontrances. Mais dans la nuit, il s'était évaporé, Michael Rasmussen, et il revient donc dans le circuit. Alléluia.
Alléluia. Merci Georges. Alors qu'on vient d'avoir une image du président de la République, il va prendre place dans la voiture de Christian Prudhomme dans quelques instants. Il va suivre le final de l'étape. Pierrick pour la musette qui continue. On vous rappelle que ce sont nos reporters qui nous ramènent plein de petites infos. Bonjour monsieur Pierrick.
Bonjour Christophe, bonjour Grand Chef, bonjour à tous.
Alors,
on est allé prendre des nouvelles de Jean-Christophe Perrault, évidemment. Hein, Jean-Christophe Perrault qui a chuté hier lors de l'étape qui a chuté tout seul et qui était, c'est une image marquante, hein, qui était plein de pansements, plein de sparadrap hier à l'issue de l'étape alors qu'il se faisait soigner. Alors, on nous avait dit ce matin, la communication de l'équipe AG2R La Mondiale nous a invité à venir prendre des nouvelles de Jean-Christophe Perrault, deuxième du dernier Tour de France, au bus de l'équipe. Ce matin, on nous avait dit venez aux alentours de 10h15, 10h20. Finalement, le temps s'est petit à petit, l'entretien s'est petit à petit repoussé, tout simplement parce que Jean-Christophe Perrault a besoin de beaucoup de temps pour mettre tous ses sparadraps, pour mettre tous ses pansements. Il a fallu près d'une demi-heure pour s'habiller complètement. Il a énormément souffert. Il était très meurtri ce matin quand on l'a rencontré. Il a bien voulu nous dire ces quelques mots pour donner ses nouvelles. On lui demandait évidemment comment il comptait aller gérer cette étape aujourd'hui.
essayer de finir l'étape et de pas sortir du Tour de France. Je peux monter sur le vélo, donc je pourrais pas vous dire, mais ouais, des douleurs la nuit, je les ressens. Entre la canicule et les plaies, ouais, ça va être une journée difficile. Il y a une course à faire, donc le but, c'est pas de traîner pour que je termine la course, mais c'est bien de gagner des étapes. Moi, je vais essayer de faire contre mauvaise fortune bon cœur et de m'accrocher dans le peloton pour passer cette journée difficile, mais je compte bien sur mes équipiers pour montrer les couleurs à G2R la mondiale devant.
Donc Jean-Christophe Perrault, hier, qui nous, enfin ce matin, qui nous expliquait qu'il avait finalement trouvé le sommeil assez rapidement, mais qui s'est réveillé au milieu de la nuit et que ça a été très très difficile ensuite de pouvoir se rendormir. On l'imagine hein, quand on voit ce corps complètement recouvert de pansements et
une vraie momie, hein.
Une vraie momie, exactement. Ouais.
Merci Pierrick donc pour cette information concernant Jean-Christophe Perrault qui a mis une demi-heure de plus pour s'habiller avec tous ses pansements.
Ils sont quand même. Mais je crois que pendant plusieurs jours, il ne partira pas sans filet.
Oui, oui, oui. Jusqu'à la fin du tour avec ces filets qui, pour ceux qui ne savent pas, entourent les pansements. Hein,
Les gaz. Ça gaze pour Jean-Christophe Perrault.
Ouais, ça gaze.
C'est,
ça gaze
un, c'est un très très bon système. Hein.
Ouais, ouais, ouais. Messieurs, on va repartir pour London, le quart de finale de Coupe Davis entre la France et la Grande-Bretagne. C'est le double aujourd'hui. 1-7 partout. Nous sommes dans la troisième manche, Eric Salio.
Ouais, c'est toujours aussi indécis entre les deux équipes, 1-7 partout, 6-4 pour les Bleus, puis 6-4 pour les Britanniques, et nous sommes dans le troisième set, au cœur du troisième set, 3 jeux partout, c'est l'équipe de France qui est au service avec Joe Tsonga, 35, 15-0.
Très bien, à tout à l'heure Eric. Rodolphe Massé, la petite finale des épéistes françaises, pour une médaille de bronze, ça donne quoi?
Eh ben, il va falloir un miracle lors du dernier, du neuvième et dernier relais qui vient de débuter. C'est Marie-Florence Kandasamy qui est en piste contre l'Ukrainienne Chemyakhina. Mais c'est bien l'Ukraine qui mène au score depuis le début de cette petite finale. 7 touches d'avance pour l'Ukraine. 33 à 26. Tu as bien compris, il faut un miracle pour que les Françaises décrochent le bronze.
Mais oui, ça va être compliqué, mais on y croit. Allez, à tout à l'heure, Rodolphe. 40 km de l'arrivée, 41 km exactement avant ce final sur l'aérodrome de Mende. On va se retrouver juste après les infos de 16h, donc pour le final de cette 14e étape. À tout à l'heure.
RMC Intégral Tour.